Merci beaucoup, Elisabeth de Fontenay, pour cette conférence qui va nous laisser matière à réflexion. J'appelle maintenant Jean-Pierre Marguénaud et Florence Burga pour la conférence à deux voix qui va suivre et qui sera suivie par un petit temps de questions du public. Donc Florence Burga, philosophe, Jean-Pierre Marguénaud est professeur de droit et nous... Je leur laisse maintenant la parole.
Alors moi aussi, je dois tout à Jean-Pierre Marguénaud concernant ma réflexion sur le droit. Et je pense que mon exposé donc est tout à fait inscrit dans le prolongement des derniers mots de celui d'Elisabeth de Fontenay, puisque le thème qui m'a été proposé est de réfléchir à cette définition de l'animal dans le code civil comme d'un être vivant doué de sensibilité. Alors n'y a-t-il pas matière à s'étonner que le législateur ait attendu l'année 2015 pour déclarer dans le code civil que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ? La mention, nous le savons, figurait déjà dans le code rural puisque, excusez-moi, depuis la loi de juillet 76, donc, on pouvait lire dans l'article L214-1 « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les besoins physiologiques de son espèce. » Ce texte aurait dû, plusieurs personnes l'ont relevé, à lui seul modifier de fond en comble les conditions de détention des animaux dans les élevages, tout type d'élevage bien évidemment. Cela n'a pas donné lieu à une modification des modes de détention des animaux. Mais finalement, il n'y a pas lieu de s'étonner d'une audace si tardive, puisqu'il s'est immédiatement trouvé des gens pour la contester. La sensibilité, en effet, n'est pas un critère négligeable lorsque l'on se mêle de savoir d'où vient qu'un individu se voit reconnaître des droits. Rappeler l'évidence selon laquelle les animaux sont des êtres sensibles dans le code civil ne pouvait être tout à fait anodin, même si ces possibles effets, comme s'ils avaient été anticipés et probablement le furent-ils lors des débats à l'Assemblée, ces possibles effets donc furent immédiatement niés par la suite de l'article. En effet, après avoir déclaré « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité », le législateur a ajouté « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Donc, ce qui signifie qu'il ne va plus de soi que les animaux soient traités comme des biens, soumis au régime des biens, et que être soumis au régime des biens, c'est le contraire du fait d'être protégé. Et que c'est en l'absence de règles de protection que les animaux sont traités, sont soumis au régime des biens, c'est-à-dire pratiquement tout le temps, comme vous le savez. En tout cas, maintenant, dans le Code civil, les animaux sont définis par ce qu'ils sont en eux-mêmes, par une caractéristique essentielle, vivant et doué de sensibilité, et non plus du point de vue de leur utilité, d'un point de vue extrinsèque, du point de vue de leur usage, des biens meubles. Mais le législateur fait comme si cette modification, en un sens considérable, ne changeait rien à l'affaire. C'était encore trop dire et trop faire, comme je le disais, aux yeux des opposants. Le spectre animaliste pouvait voir dans cette affirmation, pourtant minimale, un encouragement à persévérer dans, je cite, « son idéologie de tendance globalisante, sinon totalitaire, végane et antispéciste ». Fin de citation, selon les termes mesurés des organisateurs d'un colloque qui s'est tenu en forme de riposte le 4 octobre dernier au Palais du Luxembourg, à la gloire de la corrida, de la chasse et des productions animales par un sénateur des Landes. Le monde politique, le monde de la corrida, celui de la chasse, de l'élevage, épaulé par l'activisme de quelques rares collègues, l'un philosophe, l'autre sociologue, l'autre anthropologue, firent cause commune pour affirmer leur droit à utiliser les animaux comme bon leur semble, à faire un état des lieux de la montée de cette idéologie totalitaire et à réfléchir aux moyens de la contrer. Cibler les enfants en est un, et comme vous le savez, l'interprofession bovine, à la mesure de ses moyens qui sont immenses, intervient actuellement dans les écoles pour expliquer aux jeunes gens que les animaux sont contents d'aller à l'abattoir, etc. Dans ces milieux, on s'inquiète et on agit, sans pourtant chercher à saisir les ressorts conceptuels de la défense des animaux. Il faudrait pour cela admettre que les animaux ont une existence en soi, indépendante de ce qui peut être tiré d'eux par les êtres humains ou d'ailleurs par d'autres animaux. N'est-il pas curieux que ces opposants ne perçoivent pas qu'il s'agit d'un mouvement commandé par une idée finalement très simple, selon laquelle le droit est un périmètre destiné à protéger tout individu pouvant pâtir des atteintes violentes qu'autrui peut lui porter sans aucune nécessité. Ignore-t-il que la sensibilité est en effet la disposition qui fonde les droits moraux, les droits naturels, lesquels aspirent bien évidemment, afin d'être véritablement opposables, à devenir des droits légaux inscrits par le législateur dans le droit positif. Que les animaux aient des intérêts en propre parce que la vie qu'ils vivent, c'est eux-mêmes qui la vivent et non quelqu'un d'autre, voilà qui est nié, méprisé ou qui n'est pas vu par leurs adversaires. La sensibilité a nécessairement pour corrélat l'expérience. Elle ne se ramène en effet pas à la réaction à des stimuli. J'aimerais rappeler la maxime rousseauiste, présente dans la préface du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Donc Rousseau écrit, et c'est un peu pour suivre ce fil que je vais poursuivre, « Il semble en effet que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être de raison que parce qu'il est un être sensible. » Qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de ne pas être inutilement maltraitée par l'autre. Rousseau pense donc les droits des animaux en faisant retour au droit naturel et à un droit premier, moral, qu'il tire de la qualité d'être sensible. Il fonde donc le droit à ne pas pâtir de l'action d'autrui dans cette disposition. Il n'est donc pas anodin qu'elle soit au cœur de la définition des animaux dans le Code civil. N'y a-t-il pas lieu donc de faire valoir maintenant les implications d'une définition des animaux désormais ancrée dans leur qualité d'être sensible, dans la mesure où une tradition de pensée, et non des moindres, nous y invite ? Ne serait-il d'ailleurs pas inconséquent que le législateur ait pris la décision de distinguer les animaux des choses, donc en tant qu'ils sont vivants, mais aussi des végétaux en tant qu'ils sont doués de sensibilité, si ce n'était pour ouvrir la porte à une évolution de leur statut juridique. Il n'a pas, il est vrai, modifié le titre général sous lequel cet article prend place, des biens et des différentes modifications de la propriété, dans le Code civil, livre 2. Mais il a incontestablement, qu'il le veuille ou non, affaibli la légitimité de l'utilisation massive et consomptible, c'est-à-dire dont l'usage implique la destruction, des animaux en soulignant leur caractère sensible. Il n'est pas à écarter que le législateur ne mesure pas toujours la pleine portée des ajouts auxquels il procède ou des notions qu'il introduit dans les textes. Ainsi, au fil d'une collecte des définitions du terme « sensible », notre collègue Jacques Leroy découvre dans le dictionnaire historique de la langue française que l'être sensible est un être doué de capacités juridiques. Et Jacques Leroy se demande si le législateur n'a pas réglé sans le savoir la question de la personnalité juridique de l'animal et de l'existence éventuelle de ses droits. À cet élément, la sensibilité s'en ajoute d'autres que je voudrais rapidement mentionner, car il ne laisse aucun doute sur le fait que le législateur reconnaît aux animaux une vie psychique. Outre la douleur, le dommage durable, la souffrance, la détresse et l'angoisse sont évoquées par le législateur européen dans divers textes dès le milieu des années 1980. C'est donc bien une vie psychique qui est reconnue par ces dispositions, et on pourrait même aller plus loin en soulignant la dimension existentielle qui s'attache aux notions de détresse et d'angoisse. On peut le constater notamment avec Marie-Angèle Hermite, une autre collègue juriste. Jamais les animaux n'ont été, dans le droit positif, aussi éloignés dans leur caractérisation de la chose, et jamais le droit positif n'est organisé dans de si vastes proportions, à des fins aussi nombreuses et aussi variées, l'exploitation et la mise à mort des animaux, domestiques mais aussi sauvages. Alors, les notions que j'évoquais, qui complètent d'une certaine manière celles de sensibilité, figurent, quelques exemples, hein, dans la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, 1987. Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé, à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelle, ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs ou souffrances ou angoisses. Une autre convention portant sur les animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales, celle de 1986, je ne m'y arrête pas très longtemps puisqu'elle a été supplantée par celle de 2010, mais il était déjà question des douleurs, des souffrances et de l'angoisse des animaux. Dispositions qui sont reprises de façon plus claire, plus affirmée, dans la directive européenne de 2010, donc concernant la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, au paragraphe 6, donc, hein, où ces dispositions sont mentionnées, tandis qu'au paragraphe 7, le législateur évoque des mesures qui doivent être prises dans l'intérêt des animaux. Et dans cette même directive, la valeur intrinsèque, je cite, des animaux est affirmée. Par ailleurs, l'objectif final de cette directive est de remplacer toutes les procédures utilisant des animaux par des procédures n'en utilisant pas, puisqu'elle encourage donc le remplacement des animaux. N'est-ce pas une façon assez claire de la part du législateur d'avouer, enfin assez claire et en même temps pas complètement explicite, d'avouer le caractère illégitime, en tout cas dont la légitimité est douteuse, des expériences sur les animaux. Un être vivant doué de sensibilité, qui a des intérêts en propre, qui éprouve la douleur, la souffrance et l'angoisse, qui a une, je cite, une valeur intrinsèque qui doit être respectée, qui n'est plus un bien, mais qui est traité comme s'il était un bien, n'est-ce pas une situation qui appelle des explications ? On se demande en effet ce qui manque à un tel individu pour être traité aussi impitoyablement. Comme le souligne Jean-Pierre, qui le dira mieux que moi tout à l'heure, les animaux se trouvent juridiquement dans une position tout à fait instable. Ils sont, dit Jean-Pierre, en état de lévitation. En effet, s'ils ne sont plus des biens, comme Jean-Pierre Marguénot le notait déjà à propos de la nouvelle rédaction du Code pénal en 1994, je ne m'y arrête pas, mais donc on pouvait déjà montrer que les animaux n'étaient plus des biens, thèse que la nouvelle rédaction du Code civil renforce, que leurs intérêts sont pris en compte, mais qu'ils ne sont en même temps pas des personnes, alors qu'il n'y a que deux grandes catégories dans le droit. En effet, où sont-ils ? En un sens, les adversaires des animaux ont raison de s'inquiéter, car le législateur est en train d'ébranler le fondement sur lequel le classement des animaux parmi les choses est installé. Je le répète, il contribue indubitablement à affaiblir la légitimité des activités meurtrières qu'il continue pourtant de réglementer et dont il assure donc la licéité. Mais tant que les pratiques et les usages s'accordent avec l'ontologie qui les justifie, par exemple dans un monde où on est persuadé que les animaux ne sont que des machines plus ou moins sophistiquées qui réagissent à des stimuli mais ne répondent pas à des situations, on est dans un monde à la fois moralement et épistémologiquement cohérent. Or, cette construction est fausse, nous le savons. Descartes lui-même, dans la lettre au marquis de Newcastle du 23 novembre 1646, avait émis des doutes concernant sa propre thèse. Je lis rapidement ce passage que certains connaissent bien. « Bien que les bêtes ne fassent aucune action qui nous assure qu'elles pensent, toutefois, à cause que les organes de leur corps ne sont pas fort différents des nôtres, on peut conjecturer qu'il y a quelques pensées jointes à ces organes, ainsi que nous l'expérimentons en nous, bien que la leur soit beaucoup moins parfaite. » Dès lors donc que cette ontologie, anciennement mécaniste, pour laquelle il n'était pas un problème de ranger les animaux parmi les choses, voit ses lignes bouger et que le législateur introduit lui-même des éléments qui porte la trace de ce changement, de profondes contradictions surgissent. Je reviens maintenant à l'être vivant doué de sensibilité. On peut noter, je vais m'y arrêter un instant, que la thèse rousseauiste, donc selon laquelle c'est la sensibilité qui ouvre la porte à la considération morale et au droit, ne s'accompagne nullement chez lui d'une conception ontologiquement élevée des animaux. Et on pourrait autant en dire autant de Claude Lévi-Strauss, hein, qui suit Rousseau sur la question du fondement des droits. Chez Lévi-Strauss, on ne trouve pas non plus d'ontologie animale très sophistiquée, très complexe. Ce point sera important pour la question, aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui, le débat est en train de se scinder entre une perspective qui s'appuie sur les performances cognitives des animaux et une autre qui s'appuie sur la sensibilité. Donc celle qui s'appuie sur la sensibilité, nous pouvons l'inscrire vraiment dans le sillage de Rousseau, de Claude Lévi-Strauss. Ce dernier écrivait, je cite parmi d'autres passages que j'aurais pu rapporter, dans un texte qui s'appelle « Réflexion sur la liberté », Lévi-Strauss écrit « Peut-on concevoir un fondement des libertés dont l'évidence soit assez forte pour qu'elle s'impose indistinctement à tous ?» On n'en aperçoit qu'un seul. Mais il implique qu'à la définition de l'homme comme être moral, on substitue, puisque c'est son caractère le plus manifeste, celle de l'homme comme être vivant. Or, poursuit-il, si l'homme possède d'abord des droits au titre d'être vivant, il en résulte immédiatement que ces droits, reconnus à l'humanité en tant qu'espèce, rencontrent leurs limites naturelles dans les droits des autres espèces. Fin de citation. Aux yeux de Rousseau, donc, la sensibilité est génératrice de droits, et dans le même temps, Rousseau pose entre l'homme et les animaux une différence radicale, une discontinuité profonde, la liberté. Mais, et il faut y insister, celle-ci n'est pas pour lui moralement discriminante du point de vue, en tout cas, de la considération morale que nous devons porter à autrui. La liberté, au sens, comme on dit aujourd'hui, de capacité à s'arracher à la nature, n'est pas au fondement du droit naturel ou moral, comme cela est le cas pour la pensée humaniste. Ce qui, pour Rousseau, distingue radicalement l'homme des animaux, n'est pas la faculté d'entendement. Tout animal a des idées, écrit Rousseau, puisqu'il a des sens, il combine même ses idées jusqu'à un certain point, et, poursuit-il, l'homme ne diffère à cet égard de la bête que du plus au moins. Mais ce qui le distingue, c'est sa qualité d'agent libre. Sombrement, cependant, cette faculté distinctive est, selon Rousseau, à l'origine de sa chute. Ce petit détour est important donc pour essayer de clarifier un point crucial du débat contemporain, dont une partie des acteurs sous-estime ou ne se satisfait pas de la qualité d'être sensible. Ils défendent en effet une approche cognitiviste, plutôt fondée sur l'entendement que sur l'entendement au sens classique, il ne parle pas d'entendement, hein, mais de performance cognitive, donc plutôt sur les performances cognitives, je dis entendement pour faire écho à la citation de Rousseau, que sur la sensibilité. S'ils s'y prennent de cette manière, c'est probablement pour emboîter le pas de la stratégie humaniste qui n'a pas donné à la sensibilité de rôle décisif. Pour cette ligne de pensée, en effet, c'est à la raison, aux performances cognitives, comme on dit aujourd'hui, qu'est confié le fondement des droits fondamentaux. Pour les défenseurs des animaux attentifs aux performances, il s'agit inlassablement de prouver que les animaux sont capables de passer tel ou tel test. Et ce terme, capable, ainsi que tout le vocabulaire qui lui est associé, est omniprésent sous leurs plumes. Je songe par exemple au livre de Stephen Weiss, « Tant qu'il y aura des cages », traduit récemment par David Chauvet. Dans nos sociétés très attachées à la preuve scientifique, des études d'éthologie cognitive, de psychologie animale ou encore de biologie du comportement, sont venues prêter main forte à l'entreprise philosophique de fondation des droits des animaux. La science est en effet largement mobilisée pour, je mets entre guillemets, prouver que les animaux sont capables de faire presque aussi bien que les petits hommes. L'usage des animaux comme bien de consommation tient-il vraiment à un défaut de notre connaissance des animaux? Les animaux ressemblent-ils à ce point à des choses que depuis des siècles, le législateur les ait confondus avec elles et qu'il ait besoin des études scientifiques qui nous prouvent que les animaux sont capables d'être presque aussi intelligents qu'un enfant de 5 ans? Aucune confusion ne gouverne bien évidemment ce classement. Les hommes de droit savent aussi bien que les autres que les animaux ne sont en vérité pas des choses. Mais grâce à une fiction juridique, ils deviendront, commercialement, économiquement, ces choses qu'ils ne sont pas. Et de fait, ils disparaissent au profit de ce qu'on tire d'eux, denrées comestibles, vêtements et accessoires, connaissances expérimentales, etc. La généralisation de cette réification et son caractère licite finissent bien évidemment par modifier en retour notre conception des animaux. Le droit se préoccupe en réalité bien peu de la validation de ces catégories par l'épreuve de la validation par l'épreuve du réel des catégories qu'il forge. Si on se tourne vers des époques plus anciennes, le législateur peut tout à fait ranger l'esclave parmi les biens et l'embryon parmi les personnes. Lorsque le législateur se résout à écrire que l'animal n'est pas une chose, il peut donc, sans contradiction, poser dans le même temps qu'il continuera à être traité comme s'il était une chose. Le droit décide et fait plier le réel à ses desseins. La scène du droit n'a pas grand-chose à voir avec la scène de la nature. Bien des objets du monde réel deviennent méconnaissables dans le droit. Changeant en effet de catégorie au gré des usages auxquels ils sont soumis, ils sont, selon l'expression de Marie-Angèle Hermite, des doubles fantomatiques. Dans un article qui s'appelle « Le droit est un autre monde », des doubles fantomatiques parmi lesquels l'animal constitue un cas remarquable, à propos duquel je me bornerai à évoquer deux cas de figure. Premièrement, les individus d'une même espèce peuvent être tantôt des animaux de laboratoire, des animaux de compagnie, du gibier, des animaux élevés pour leur fourrure, pour leur laine ou encore pour leur chair. Je parle des lapins. Ils seront chaque fois soumis à des traitements particuliers qui sont de part en part gouvernés par ces différents usages. Deuxièmement, le législateur n'éprouve aucune difficulté à déclarer dans le même temps que tout animal est un être vivant et sensible et à priver les animaux sauvages de sensibilité, disposition dont il résulte que les actes de cruauté commis à leur égard sont inexistants aux yeux des tribunaux. C'est probablement ce qui permet, notamment aux journalistes, de déclarer, à la suite d'incendies ayant ravagé des hectares habités par des animaux sauvages, des bâtiments d'élevage ou des animaleries habitées par des animaux domestiques, qu'aucune victime n'est à déplorer. Entendons, aucune victime humaine. Nous savons que ces animaux sont en réalité victimes, comme les humains le seraient en pareille circonstance, des flammes. Mais tout se passe comme si ce fait ne s'imposait pas à l'esprit, car notre vision du monde est façonnée par la fabulation juridique. Nos représentations sont la plupart du temps conformes à celles que véhicule le droit. Fût-ce au prix d'une torsion considérable que nous faisons alors subir à notre expérience effective. Il est clair que si les animaux ont été classés parmi les choses appropriables, c'est en vertu d'une décision qui ne doit rien à une mécompréhension de la vie animale. Nul, en réalité, n'a jamais pris les animaux pour des choses. L'extension des droits fondamentaux aux animaux n'a en réalité pas besoin d'une accumulation de preuves scientifiques supplémentaires. On flatterait d'ailleurs un coupable penchant en se pliant à une telle injonction, car fournir toujours plus de preuves est une tâche infinie dont la réclamation est évidemment dilatoire. Je ne méconnais bien sûr pas leur utilité auprès du législateur, qui s'appuie notamment sur des données quantifiées pour établir certaines réglementations. Mais nul ne doit être dupe d'un scientisme arrogant et d'un positivisme dépourvu d'intelligence face à la complexité et à la profondeur des existences humaines ou animales. L'expérience ordinaire que nous avons des animaux indique assez qu'ils ont des intérêts en propre et qu'ils vivent leur vie en première personne. Cette course à la preuve peut d'ailleurs s'avérer contre-productive quand elle cherche à tout prix une similarité de compétences entre les animaux et les humains. Car les animaux sont une altérité singulière qui résiste à cette épistémologie erronée. Ce qu'il importe de souligner, me semble-t-il, ce sont des dispositions psychophysiologiques qui exposent les animaux non seulement, comme le dit le législateur, à la douleur et aux dommages durables, mais encore à la souffrance, à la détresse et à l'angoisse. c'est cette vie individuée et subjective, cette vie sensible, qui fait entrer les animaux de plein pied dans une communauté ontologique. La valeur morale de telle vie, qui peut être jugée inhérente à leur ontologie, ou simplement postulée, ceci est un autre problème, ne me semble pas, en tout cas, dépendre des performances cognitives dont les individus seraient capables. Nous sommes en effet ici face à deux domaines hétérogènes. La performance cognitive peut être accomplie par une machine sophistiquée, alors que l'expérience vécue n'est pas transférable à la machine. J'en viens à quelques mots de conclusion. En liant les droits à un niveau cognitif sophistiqué et évalué à l'aune de l'humain, car c'est toujours ces deux éléments, hein, la sophistication et la comparaison avec les compétences humaines, conscience de soi réflexive, théorie de l'esprit, etc., on prend le risque de fermer la porte à tous les animaux qui ne se sont pas montrés capables de passer avec succès tel ou tel test. Une fois que ces défenseurs de la performance cognitive auront fondé le droit à ne pas être enfermé arbitrairement, torturé ou tué, ce qu'on appelle les droits fondamentaux, comment ces défenseurs pourront-ils faire valoir que ces droits premiers doivent être étendus à des individus ne manifestant pas une telle vie cognitive? Donc, je pense qu'il est clair, hein, que je distingue et qu'il faut distinguer la vie cognitive, les performances cognitives de la vie psychique, qui est évidemment beaucoup plus large. Les contributeurs du projet Grand Singe, publié en 1983, différaient d'ailleurs déjà entre eux sur ce point. Gary Francione est de ceux qui considèrent que s'engager dans la quête, je le cite, dans la quête infinie d'une identité entre les esprits dont nul ne verra jamais le terme, c'est refuser de sortir de l'anthropocentrisme en empruntant la voie d'argusies inépuisables. L'animal digne de se voir reconnaître des droits fondamentaux, poursuit-il, devra-t-il avoir l'intelligence d'un enfant de 8 ans, de 12 ans, etc. Selon Francione, qui se montre ainsi fidèle à la thèse rousseauiste, je le cite, « la sensibilité constitue à elle seule un critère suffisant d'intégration au sein de la communauté morale, sans qu'il faille exiger la possession d'aucune autre caractéristique cognitive. » Et il propose de la sensibilité la définition suivante, sur laquelle je terminerai mon exposé. Il définit la condition comme la condition d'un être sensible est par essence celle d'un être qui reconnaît que c'est dans son existence et non pas dans celle d'un autre qu'il fait l'épreuve de la douleur ou de l'angoisse. Fin de citation. N'est-ce pas ce que le législateur a désormais admis ? C'est terminé. Merci.
Être la cible des compliments convergents des philosophes Elisabeth de Fontenay et Florence Burga, qui ne sont peut-être pas toujours tout à fait d'accord entre elles, procure une sensation absolument extraordinaire. Mais ça fait mesurer le sens des responsabilités, et ça provoque du stress parce que je vais devant vous prendre le risque de leur déplaire à toutes les deux. Parler en même temps ou après Florence Burga, c'est une épreuve encore plus redoutable parce que depuis 2009, nous travaillons ensemble avec Jacques Leroy à la revue semestrielle de droit animalier. Et depuis 2009, les progrès de Florence Burga en droit sont fantastiques, alors que du point de vue philosophique, je suis toujours resté à un niveau de quelqu'un qui n'a pas fait d'études secondaires, c'est vous dire. Et vous avez vu qu'en droit, elle en sait autant, plus que moi, elle a été obligée de se freiner à plusieurs occasions, en disant, mais bon, je ne peux pas empiéter sur mon domaine. Donc, je suis un petit peu embarrassé parce qu'elle a déjà presque tout dit, et ou en tout cas, elle aurait pu tout dire. Alors, que faire ? Ben, il faut essayer d'aller chercher ailleurs. Donc, je vais vous proposer une improvisation dont il restera savoir quoi. Le thème qui nous réunit, c'est 16 février 2015, un être vivant doué de sensibilité. C'est une allusion à l'article 515-14 du Code civil, dont Florence a bien entendu parler. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, première phrase. Sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens, deuxième phrase. Pour essayer de mettre en lumière l'originalité et la portée de ce texte novateur, il faut, je crois, le confronter à deux autres textes. Si certains d'entre vous s'attendent déjà à ce que je mette en parallèle l'article 515-14 du Code civil et l'article L214-1 du Code rural de la pêche maritime, je suis désolé, il va falloir attendre encore un petit moment, parce que c'est ce texte-là que je vais prendre en point de mire. Les deux qui vont aider peut-être à faire ressortir l'apport, l'originalité, les potentialités du nouvel article du Code civil sont l'article 110-1 du Code de l'environnement et l'article 641A du Code civil suisse. D'abord, l'article 110-1 du Code de l'environnement, même s'il porte le numéro 110, c'est le premier article du Code de l'environnement et qui définit les principes généraux et qui fait l'inventaire des éléments qui appartiennent au patrimoine naturel national. Or, ce texte vient de faire l'objet d'une réforme par le miracle de la loi du 8 août 2016, que vous connaissez tous, la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Avant cette loi, l'article 110-1 du Code de l'environnement faisait figurer parmi ces éléments les espèces animales, les espèces végétales et la diversité. Depuis le 8 août 2016, la formule a été changée. Il s'agit des êtres vivants et de la biodiversité. C'est à mettre en confrontation, à confronter à l'article 515-14 du Code civil, lui, il parle des êtres vivants doués de sensibilité. Cette différence appelle deux remarques. La première, c'est que depuis le 8 août 2016, le fossé qui existait déjà entre le droit animalier et le droit de l'environnement s'est encore creusé. Avec l'article 515-14, la phrase, la première, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, ça ne ferme pas la porte aux animaux sauvages. Et ça l'a fermé d'autant moins qu'une députée, Madame Laurence Abeille, avant même l'adoption de la loi du 16 février 2015, avait réussi à faire voter par la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, un amendement qui étendait aux animaux sauvages, en raison de leur sensibilité, la protection contre les actes de cruauté au cours de la discussion de la loi sur la reconquête de la biodiversité. Cet amendement a bien entendu disparu. Donc, dans le Code de l'environnement, on assiste à une assimilation des animaux, non pas aux êtres humains, mais aux végétaux. Et on a une distorsion qui se creuse, le Code de l'environnement, le droit de l'environnement, c'est les êtres vivants indépendamment de leur sensibilité. Le droit de l'environnement, et encore plus depuis la loi de 2016, se désintéresse à peu près complètement de la nature d'être sensible des animaux. Dans le Code civil, eh bien, c'est tout à fait différent. Ce sont les êtres vivants doués de sensibilité, ce qui fait que dans le Code de l'environnement, on met dans une catégorie commune les animaux et les végétaux, être vivant, et dans le Code civil, on met dans une catégorie commune les animaux et les êtres humains, parce qu'on pourrait dire tout aussi bien que les êtres humains sont des êtres vivants doués de sensibilité. C'est ce qu'a fait remarquer mon collègue Philippe Régnier, qui a été le premier commentateur de la loi de 2015. Voyons maintenant la confrontation entre l'article 515-14 du Code civil et le Code civil suisse, l'article dont je vous ai donné le numéro tout à l'heure, 641A, qui figure dans le Code civil suisse depuis le 1er avril 2013. Et vous allez voir le parallélisme des deux textes. L'article du Code civil suisse dit « Les animaux ne sont pas des choses ». Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux. On a l'impression d'un certain parallélisme. Faire semblant de donner d'une main et retirer de l'autre. En réalité, les deux textes sont tout à fait différents dans leur esprit parce que le Code civil suisse commence par une définition négative. Les animaux ne sont pas des choses, étant précisé que pour les juristes, les biens et les choses sont des notions à peu près synonymes, pas tout à fait, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Donc le Code civil suisse, négativement, les animaux ne sont pas des choses, et ensuite, sauf disposition contraire, les règles prévues pour les choses sont valables pour les animaux. Le Code civil français, lui, part d'une définition positive. Il nous dit ce que sont les animaux. Ce sont des êtres vivants doués de sensibilité. Et ensuite, c'est à peu près la même chose, il soumet au régime des biens les animaux qui sont des êtres vivants doués de sensibilité. Et Florence vous a dit tout à l'heure ce qu'il fallait penser de cette deuxième phrase, mais pour le juriste, elle est extrêmement importante parce qu'elle dit clairement que les animaux ne sont pas des biens. Ils sont soumis au régime des. Et on pourra voir peut-être un peu plus tard que ça peut avoir des potentialités considérables. En tout cas, j'insiste sur cette définition positive. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, ce qui fait que cette définition positive est en quelque sorte le levier pour extraire les animaux de la catégorie des biens. Et en même temps, c'est une sorte de ferment pour intégrer les animaux dans la catégorie des personnes, puisque comme Florence vous l'a bien dit tout à l'heure, en droit, il y a une summa divisio, comme disent les juristes qui aiment bien de temps en temps mettre un petit peu de latin, entre les personnes qu'on appelle quelquefois les sujets de droit et les biens qu'on appelle quelquefois les choses. Alors, ce que je vais me proposer de développer devant vous, c'est ces deux idées. La référence, la définition des animaux par le nouveau texte du Code civil, le nouvel article du Code civil comme des êtres vivants doués de sensibilité est un levier pour les extraire de la catégorie des biens et un ferment pour les intégrer dans la catégorie des personnes. Voyons d'abord le premier élément, le premier aspect, la définition des animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité, un levier pour les extraire de la catégorie des biens. C'est la grande révolution théorique qui a été introduite par la loi de 2015, qui avait des précédents. Et ici, je subdiviserai ma première partie en rendant hommage à deux parlementaires, un qui est peu connu, qui était le sénateur Laurent, et l'autre qui est plus connu, c'est le député Glavany. Voyons d'abord ce que avait apporté le sénateur Laurent à l'extraction des animaux de la catégorie des biens en raison de leur sensibilité. Il faut faire ici un petit peu d'histoire du droit animalier français. On peut remonter, si vous le voulez, à la loi Gramont du 2 juillet 1850, qui, pour la première fois, avait incriminé les mauvais traitements exercés envers des animaux domestiques. C'est une loi qui était allée beaucoup moins loin que ne l'aurait souhaité son promoteur, puisqu'elle avait été édulcorée par un amendement qui avait ajouté les mauvais traitements exercés publiquement. Ce qui revenait à dire que ce qui était la valeur protégée, ce n'était pas la sensibilité de l'animal d'abord, mais la sensibilité des spectateurs. Et on a vécu avec cette petite avancée, jusqu'au 7 septembre 1959. 7 septembre 1959, c'est la date du décret Michelet, l'autre, pas celui du peuple, celui qui était garde des Sceaux du général de Gaulle à cette époque-là. Et ce décret du 7 septembre 1959 a abrogé la loi Gramont et a réécrit la contravention de mauvais traitement en faisant disparaître la condition de publicité. Ce qui fait que depuis 1959, les animaux en France sont protégés pour eux-mêmes en raison de leur propre sensibilité, puisqu'on ne conçoit guère qu'on puisse exercer un mauvais traitement à l'égard d'un être, une identité qui ne soit pas sensible. Cette avancée a été prolongée par la loi du 19 novembre 1963 qui a incriminé, cette fois pour en faire un délit, les actes de cruauté auxquels sont venus s'ajouter par la suite les sévices graves. Je vous passe le détail de l'évolution. On en arrive à la réforme du code pénal à laquelle Florence a fait allusion tout à l'heure en 1990, entrée en vigueur en 1994. Parmi tous ces chantiers, le législateur en était arrivé à faire entrer les infractions dans plusieurs catégories, il y en avait trois principales, les crimes et délits contre l'État, la nation, la paix publique, pas d'intérêt pour nous, les infractions contre les personnes et les infractions contre les biens. Était arrivé le moment de classer le délit d'acte de cruauté envers les animaux domestiques, puni aujourd'hui de 2 ans d'emprisonnement jusqu'à 30 000 euros d'amende. Et que faire de cette infraction ? Infraction contre les personnes ? Personne n'y songeait. Infraction contre les biens, c'est là que le Parlement s'apprêtait à classer cette infraction lorsque un sénateur, le sénateur Laurent, qui était, je crois, agriculteur dans l'Aube, dans le civil, enfin, si j'ose dire, avait dit « Mais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Les animaux, depuis 1959 et 1963, en tout cas les animaux domestiques et assimilés, sont protégés pour eux-mêmes en raison de leur propre sensibilité. Et il est donc difficile de classer l'infraction qui les protège dans la catégorie des infractions contre les biens. » Hésitation, 2 amendements, et qu'a-t-on fait ? On a créé une catégorie intermédiaire qui s'appelait tout bêtement les autres crimes et délits. Ce qui a accueilli au début que l'infraction qui concernait la protection des animaux. En 1994, les animaux domestiques ont été sortis par le droit pénal de la catégorie des biens, puisque on n'a pas rangé dans la catégorie des infractions contre les biens les infractions destinées à les protéger. C'était déjà un signe que quelque chose n'allait pas très bien. Eh bien, c'est ce qui s'est prolongé avec l'amendement Glavany, auquel j'en arrive maintenant, qui est à l'origine de la loi du 16 février 2015. On a fait beaucoup de reproches à cet amendement Glavany, notamment de ne faire que répéter ce que disait le Code rural, la pêche maritime à l'article 215-14. L'amendement Glavany va beaucoup plus loin. D'abord parce que c'est le Code civil. Le Code civil, c'est le code de la société civile tout entière. Comme l'avait dit le doyen Carbonnier et quelques autres avant lui, c'est la constitution civile des Français. Le Code rural est parfaitement respectable, mais il s'adresse à quelques professions bien identifiées. Et il ne faut pas beaucoup s'étonner si l'article L214-1 n'a pas beaucoup de conséquences pratiques, puisque pour prendre des arrêtés, des mesures qui le mettraient concrètement en application, il faut, pour simplifier, mais vous n'irez le répéter nulle part, il faut pratiquement l'aval de la FNSEA, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir. La même chose dans le Code civil, ça donne un droit de regard à l'ensemble de la société civile, et surtout, le Code civil, c'est celui qui permet de savoir où on se situe par rapport à la catégorie des bien ou de la catégorie des personnes. Eh bien, l'article 515-14, en s'arrimant sur cette définition positive, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, a fait sortir les animaux de la catégorie des biens. L'article 515-14 se situe avant le titre du code civil qui s'intitule « De la distinction des biens ». Et le premier article du titre consacré à la distinction des biens, l'article 516, dit « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Il ne dit pas « Tous les biens sont meubles, immeubles ou animaux ». Et tous les autres articles suivants ont extrait les animaux domestiques méthodiquement des deux seules sous-catégories de biens que l'on connaissait jusqu'alors et qu'on connaît toujours, les immeubles et les meubles. Les animaux ne sont plus des biens. Il reste une ambiguïté, il faut en convenir, c'est que toutes ces nouveautés, l'article 515-14 et les modifications des articles 524, 528, j'en passe, se situent toujours dans un livre du Code civil qui s'intitule des biens et des différentes modifications de la propriété. Il eût été logique qu'on intitule, comme vous voudrez, ce livre deuxième, des animaux, des biens et des différentes modifications de la propriété. Là, il n'y aurait plus le moindre doute. Des biens, des animaux, des biens et des différentes modifications de la propriété, extraction complète. L'extraction est tout aussi réelle, seulement... Puisque le livre n'a pas été modifié dans son intitulé général, il faut 5 minutes d'explication pour le démontrer. Ça fait perdre du temps, mais c'est tout. Et on ne peut pas souhaiter qu'à la prochaine occasion législative, le législateur modifiera des animaux, des biens et des différentes modifications de la propriété. La prochaine étape, ce sera sans doute de supprimer l'article 515-14. C'est ce qui est promis dans les débats de la campagne présidentielle qui s'ouvre. Le colloque du Sénat auquel Florence a fait allusion tout à l'heure prépare le terrain à cette régression. Vous ne pourrez pas dire que personne ne vous l'avait dit. On parle d'un article qui apporte beaucoup d'espoir, mais qui est pratiquement moribond. Le prochain président de la République, qui a dit aussi qu'il voulait supprimer le principe de précaution, va certainement mettre cet article-là dans son collimateur, vous pouvez le noter aujourd'hui. Ça aura été dit le 2 décembre 2005. Ça te fait peur, Florent ? Oui, c'est... Enfin, on n'en est pas encore tout à fait là, mais ça va vite venir. Et Florence l'a souligné, le monde de l'élevage, de la chasse moins, mais l'élevage notamment, a des raisons d'avoir peur. Ça avait été très bien démontré dans les débats par un opposant à l'amendement Glavany, un député de la Manche qui s'appelle Philippe, je ne sais plus quel est, j'ai retrouvé son nom dans un instant, avait démontré toutes les conséquences que cela pourrait entraîner pour l'élevage, pour les propriétaires d'animaux, que cette réforme de l'article 515-14, Philippe Gosselin. Ça s'appelle ce député. Et il y a vraiment des perspectives qui peuvent modifier considérablement. Alors, on en est là. Les animaux ont été extraits de la catégorie des biens sous l'ambiguïté de cet intitulé, mais le législateur s'est bien gardé de dire que c'était des personnes. Et ça place l'animal dans cette situation de lévitation. Ce ne sont plus des biens, mais ce ne sont plus des personnes. C'est quoi ? Est-ce que ça va tenir longtemps comme ça ? En tout cas, un élément que je voudrais vous signaler et qui me paraît important, c'est que depuis la loi du 16 février 2015, il y a déjà eu une jurisprudence majeure qui a dénié la catégorie de biens à des animaux qui étaient considérés de cette manière jusque-là. C'est l'arrêt du 9 décembre 2015, l'arrêt Delgado du nom d'un chiot qui avait été vendu par une éleveuse professionnelle à une dame qui s'était rendue compte que plus le chien grandissait, moins il y voyait et que par conséquent, il y avait ce qu'on appelle en droit de la consommation un défaut de conformité du bien vendu. Le code de la consommation dit que dans un cas pareil, l'acheteur déçu a le choix entre le remplacement ou la réparation. La réparation, c'était les deux opérations, l'opération de chacun des yeux qui se montait, je crois, à 2400 euros. Le code de la consommation prévoit que lorsque l'acheteur déçu par le défaut de conformité du bien vendu a exercé son choix, le vendeur peut ramener la solution à ce qui est le moins onéreux pour lui. Or, en l'occurrence, le prix d'un chiot de cette race-là, c'était 800 euros. La vendeuse avait dit, ben moi, je fais jouer le code de la consommation, ça sera le remplacement, je vous en donne un autre. Le premier, vous en faites ce que vous voulez. Il sort du décor. Et puis, c'est tout. Et bien, on est allé jusque devant la Cour de cassation. Laquelle Cour de cassation a dit qu'un animal de compagnie, tel qu'un chien ou un chat, c'est un être vivant, comme le début de l'article 515-14, unique et irremplaçable. Destiné à recevoir l'affection de son maître, en conséquence de quoi il ne peut pas être remplacé comme les biens ordinaires. Donc, depuis 2015, les animaux de compagnie ont été sortis de la catégorie des biens au regard du droit de la consommation. C'est un être vivant, unique et irremplaçable. Donc, vous voyez que... Alors je précise, pour être précis techniquement, que l'arrêt de la Cour de cassation ne se réfère pas directement au nouvel article 515-14 parce que l'affaire avait déjà été engagée avant la promulgation de la loi. Mais c'est un peu la même idée. Et donc on voit qu'en attendant la prochaine législature, qui abrogera l'article 515-14, il y a des perspectives qui pourrait faire tomber les animaux dans la catégorie des personnes. Pour le moment, ils l'évitent, mais est-ce que ça va durer longtemps ? Ça peut se terminer par la façon que je viens d'évoquer, ça peut se terminer par l'entrée des animaux dans la catégorie des personnes. Ça sera rapidement ma deuxième partie, je ne sais plus tellement où j'en suis du point de vue de... J'ai encore 2 heures ? Bon, ben d'accord. Eh bien, merci. Comment ? Parce que l'article 515-14 du Code civil a reconnu que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, pourrait-il basculer dans la catégorie des personnes ? Il pourrait entrer dans cette catégorie en application des idées développées il y a plus d'un siècle par un juriste éminent qui s'appelait René de Mogue. Vous connaissez peut-être René de Mogue, si vous avez suivi seulement quelques heures de cours de deuxième année de droit. Mais même si vous n'avez jamais fait de droit, vous connaissez une distinction majeure dont il est l'inventeur, c'est la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultats. Eh bien, René de Mogue avait écrit en 1909, à la revue trimestrielle de droit civil, un article qui s'appelle « La notion de sujet de droit ». Je considère qu'aujourd'hui, nul ne peut prétendre s'exprimer sur la question de la personnalité juridique des animaux s'il n'a pas commencé par lire attentivement cet article majeur où tout était déjà presque dit. Et bien, la loi du 16 février 2015 valide toutes les analyses de René de Mogue, ce qui fait que les idées qu'il avait développées sont là toutes prêtes pour accueillir la transformation de l'animal domestique en personne. Voilà ce que écrivait en 1909 René de Mogue. Est entendu que le but du droit est la satisfaction, le plaisir, tout être vivant qui a des facultés émotionnel et lui seul est apte à être sujet de droit, que la raison lui manque de façon définitive ou temporaire. L'enfant, le fou curable ou incurable peuvent être sujet de droit car ils peuvent souffrir. L'animal même peut l'être, il peut se trouver bénéficiaire d'un legs ayant, comme nous, des réactions psychiques douloureuses ou agréables. J'indiquerai, c'est toujours de Mogg qui parle, j'indiquerai même à ce point de vue, ne voulant pas y insister, qu'envisagé de cette façon, le droit apparaît comme une chose infiniment belle, comme étant en quelque sorte la communion, le terrain de rapprochement, aussi des luttes, hélas, de ceux qui peuvent souffrir. Le droit apparaît comme un immense syndicat de lutte contre les souffrances entre tous les êtres qui sont pitoyables parce qu'il peut leur être fait du mal, beaucoup de mal, bien qu'ils soient souvent par la force même des choses les artisans de leur propre malheur. Le droit, cette chose toute intellectuelle en apparence, attire donc par les attaches très étroites qu'il a dans son but avec les facultés émotionnelles. C'est ce que je lis chaque année au début de mon cours de première année pour essayer de rendre le droit moins rébarbatif pour des étudiants qui... Et de Mogg continue ailleurs pour appliquer ces idées-là, pour aller vers la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux en fonction de leur aptitude à souffrir. Il dit un peu plus loin... On considère que le droit est fait pour déterminer les rapports des hommes entre eux, pour assurer à chacun la jouissance de certains avantages. Mais pourquoi limiter l'application du droit à l'humanité ? Ici, tout le monde, sauf de rares exceptions, se récrit. Faire de l'animal un sujet de droit, quelle horreur, quelle abomination ! À entendre ces cris, ne semblerait-il pas qu'il s'agit de leur donner quelques décorations et d'imiter Héliogabale faisant son cheval consul ? Mais il ne s'agit pas de cela. Ceux qui font ces critiques ou ont ces sourires placent la question sur un terrain qui n'est pas le sien. Il s'agit simplement de poser une règle technique. Est-il commode, pour centraliser des résultats souhaitables, de considérer même des animaux comme sujets de droit ? Le législateur ne doit évidemment pas ignorer les abus, les sottises, les vanités folles auxquelles la théorie des animaux sujets de droit peut prêter, mais c'est à lui, c'est au juge, en s'inspirant des bonnes mœurs, du caractère déraisonnable de certains actes, à annuler ces dispositions. L'extension, d'ailleurs, de la qualité de sujet de droit, là, de Mogg répond à l'avance à une objection forte. Pour cette histoire de lévitation, les animaux ne sont plus des biens, mais ils ne sont pas des personnes. On pourrait considérer qu'il y a lieu de créer une catégorie intermédiaire. Et il y a un auteur célèbre qui s'appelle Gérard Farjat qui a proposé il y a quelques années la notion de centre d'intérêt, dans laquelle figureraient les animaux, une catégorie entre les biens et les... personnes, catégories dans lesquelles les animaux pourraient trouver leur place. Eh bien, en 1909, René de Mogg avait déjà réfuté cette objection en disant, donc l'extension d'ailleurs de la qualité de sujet de droit pourrait tout aussi bien peut-être être remplacée par d'autres procédés techniques, car différents instruments peuvent fort bien amener au même résultat. Il suffirait de dire, tout bien qui est entré dans un patrimoine affecté d'une certaine charge reste, ainsi que ceux qui le remplacent par subrogation réelle, affecté de cette charge et doit être employé à cet effet avant de servir de garantie au créancier. Il doit même échapper à ces derniers. Mais on aurait au fond le procédé technique de la personnification sans le nom. Et ne vaut-il pas mieux de deux constructions possibles choisir la plus simple ? Donc déjà en 1909, René de Mogg avait imaginé que la sensibilité des animaux pouvait leur valoir l'entrée dans la catégorie des personnes, personnalité juridique, que considérée comme un moyen technique le plus commode pour apporter à un moment donné à un certain nombre d'animaux la protection que la société estime utile pour eux. Cette personnalité technique des animaux, en raison de leur sensibilité, présente un certain nombre d'avantages ou d'intérêts. Elle permet de réserver plus de droits à certains animaux qu'à d'autres. La personnalité technique peut très bien décider que certains animaux auront les mêmes droits que des humains, mais elle peut tout à fait. C'est bien décider que certains n'en auront pas ou que certains en auront plus. la personnalité technique de René Domocq, fondée sur la prise en compte de la sensibilité, permet de prendre parti dans le débat avec Stephen Wise. C'est le critère, ce ne serait pas les aptitudes cognitives, mais l'aptitude à souffrir. Et on peut décliner toute une série de modèles de personnalité technique des animaux, prenant en compte leur plus grande aptitude à souffrir, leur plus grande proximité avec les humains, et ainsi de suite. C'est un instrument qui est d'une très grande souplesse. Et c'est un instrument qui ne prend pas parti sur le maintien de la grande barrière dont parlait Elisabeth Fontenay tout à l'heure. On peut parfaitement, par cette technique-là, décider de passer par-dessus la barrière ou de la maintenir scrupuleusement et en distinguant sous-catégorie d'animaux par sous-catégorie d'animaux. Ça n'entraînerait pas plus de bouleversement pour l'ensemble de la société que l'existence des personnes morales, qui aussi ont une personnalité technique, et ça présenterait l'avantage de l'efficacité. Parce que pourquoi débattons de la question de savoir si les animaux sont des biens ou pourraient être des personnes? Parce que la personnalité juridique est un moyen de décupler l'efficacité d'une protection sur la scène juridique. Grâce à la personnalité juridique, dont une entité, un être sensible est revêtu, il y a moyen d'agir en son nom et pour son compte devant les tribunaux pour protéger plus efficacement leurs droits, y compris contre celui qu'on appelait naguère leur propriétaire et qu'on pourrait appeler aujourd'hui leur maître. Donc, vous voyez que ce critère pris en compte par l'article 515-14 du Code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, peut amener très loin. Du point de vue de la pure technique juridique, il peut amener peut-être encore plus loin, et là je vais aborder pour terminer une question difficile qui peut montrer que le droit animalier, à l'émergence duquel nous travaillons activement avec Florence, Jacques Leroy et quelques autres, peut être une sorte de miroir pour l'ensemble du droit. Et ici, le droit animalier, réfléchir sur la personnalité juridique des animaux en raison de leur sensibilité, peut-être, et j'en terminerai par là, le moyen de déterminer le critère de la reconnaissance de la personnalité juridique de l'être humain. À partir de quand l'être humain a-t-il la personnalité juridique? En droit positif français, l'être humain a la personnalité juridique à partir de la naissance vivant et viable. Il existe un cas particulier qui correspond à la mise en œuvre de la maxime latine Infans Conceptus. Il y a des cas rarissimes dans lesquels la personnalité juridique de l'enfant qui est né vivant et viable peut rétroagir au jour de sa conception pour lui permettre d'attraper à sa naissance une part dans la succession de son père décédé pendant la grossesse de sa mère, pour simplifier. Mais c'est le début de la personnalité juridique, la naissance vivant et viable. Comme vous le savez, l'Église catholique préconise le début de la personnalité juridique réelle de l'être humain dès la conception. Le droit animalier, notamment avec la directive de 2010 dont Florence a parlé tout à l'heure, prend en considération l'aptitude des fœtus, des mammifères, à souffrir à partir du début du dernier tiers du développement fœtal normal. Certains, opposés à l'IVG notamment, ont dit « mais alors le fœtus des mammifères, la directive 2010 en prend encore, et les fœtus humains, vous en faites quoi ?» Et il y a quelque temps, il y a 15 jours, une affaire concernant l'abattage des vaches gestantes. Et bon, il y a eu toute une série d'initiatives. Et certains ont dit, ben oui, mais alors vous vous intéressez à la protection des vaches gestantes parce que le fœtus, les veaux, souffrent. Et les humains, vous en pensez quoi? C'est une question extrêmement difficile que les spécialistes de droit animalier se doivent, à mon avis, d'aborder, parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les droits de l'homme et les droits de l'animal. Et une des idées pourrait être, alors j'hésite à en parler parce que j'ai écrit quelque chose sur ce thème qui est dédié à une collègue à qui nous offrons des mélanges, et ce texte devrait être publié cette semaine, mais j'ai appris hier au soir que la publication serait différée après le 1er février, ce qui fait que j'ai un petit peu de mal à parler publiquement d'un texte qui est dédié à une collègue. Mais l'idée, ça serait qu'on pourrait réfléchir à la possibilité de faire partie réellement la personnalité juridique de l'être humain à partir du début du dernier tiers du développement du fœtus. Ce qui ne remettrait aucunement en cause l'IVG, parce que si ce que je dis à mes étudiants de première année est toujours exact, l'IVG c'est jusqu'à la fin de la deuxième semaine. Et le début du dernier tiers du développement du fœtus, c'est beaucoup plus tard. Bref, réfléchir sur l'animal, réfléchir sur la sensibilité de l'animal, ça tend aux droits des personnes humaines un miroir dans lequel il faudra peut-être regarder et non pas fuir les difficultés. Bien, tout ça, encore une fois, l'année prochaine, ça, il n'en sera plus question, puisque l'article 515-14 du Code civil aura été abrogé. Je vous remercie de votre indulgence.
Merci beaucoup Jean-Pierre Margueno, merci beaucoup Florence Burga. Espérons que vos derniers propos ne soient pas une anticipation. Hein. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Pierre Margueno, Florence Burga ?
Bonjour et merci. Alors, je suis désolé, j'ai une question un peu naïve et que je crains d'être méchante et j'ai peur de la poser parce que de ce que vous avez dit, je pense que vous allez gagner rapidement, mais je me la pose quand même. C'est une question, c'est à propos des catégories et des principes dans le droit. Alors, je suis pas juriste et tout ça, mais j'ai l'impression que votre grande pensée, c'est à partir des catégories de la cohérence. C'est-à-dire qu'on avait les droits et les personnes, et puis l'animal arrive. Et ça devient l'occasion de penser une nouvelle morale, une nouvelle ontologie, et de dessiner un monde juridique très cohérent où on pourrait faire place à l'animal. Et vous regrettez que ce monde ne se fasse pas, qu'il ait des opposants et des choses comme ça. Ça me paraît assez beau, et c'est là où... Moi, j'ai l'impression que le droit, dans sa pratique, c'est pas une affaire de cohérence, mais une affaire de polythéisme. Alors je connais très peu, hein, moi je me contente de lire des bouquins de comment passer l'oral d'avocat, qu'est-ce que c'est la bioéthique, et on voit qu'il y a des combats entre la vie privée, l'ordre public, la précaution, la personne humaine. Et malgré votre pensée des catégories juridiques, avec l'histoire de personnalité juridique, que je ne connaissais pas et c'est très intéressant, est-ce qu'il ne vous manque pas, pour apparaître sur la scène publique, un grand principe qui soit audible ? C'est-à-dire... qu'avec, voilà, c'est ma question, et avec le principe de souffrance, c'est un peu dur, il est très fort ce principe, et vous risquez de rendre les gens sourds, alors que plutôt qu'aller prendre chez Rousseau, on peut trouver chez Montaigne, et revenir à cette chose un peu vieille, hein, mais chez Gramont, la haine de la cruauté. Se contenter de ça pour être efficace sur l'espace public. Voilà, c'est une question... c'est tout. Merci.
Alors, je pense que c'est tout à fait insuffisant, hein, cette idée de la haine, de la cruauté, parce que ça veut dire que ce CE ou CEX contre quoi vous exercez la cruauté n'a aucune espèce de statut. Et donc, vous ne pouvez même pas comprendre pourquoi on peut parler de cruauté. La cruauté, c'est l'intention délibérée de faire souffrir. Donc, vous ne pouvez pas évacuer de la question l'individu, précisément, que vous faites souffrir. Alors, bien sûr, là, vous défendez une ligne, hein, qui a ses grands représentants, peut-être pas à Montaigne, mais en tout cas Kant, qui dit qu'il n'y a pas de devoir direct envers les animaux. mais que nous avons des devoirs indirects au sens où banaliser la cruauté envers les animaux, s'exercer ou en tout cas se laisser aller à des mauvais traitements et des actes de cruauté envers les animaux émousse en l'homme la disposition la plus importante aux bonnes relations des êtres humains entre eux, sans aucune considération de l'individu qui reçoit ces cruautés. Je pense que à ce moment-là, on ne tient plus rien en main. C'est-à-dire que on pourrait parler, par exemple, d'un acte de cruauté contre un fauteuil. Donc, si vous, enfin,
je laisse. Je ne vois pas vraiment ce que je pourrais ajouter. La question, c'est de savoir ce que vous attendez du droit.
Il y a de la réflexion sur le droit. C'est-à-dire, excusez-moi, ça peut être inefficace pour en
finir. Eh bien, c'est juste que le droit, faut qu'il arrive, la pensée juridique, faut qu'elle arrive à être audible. Et donc vos adversaires, peut-être, n'écouteront jamais la souffrance animale. Mais la cruauté comme plaisir pris à la souffrance, et pas comme intention de faire le mal, ils peuvent y être sensibles. C'est juste une suggestion. Moi, j'ai aucune autre idée que ça, qu'une suggestion.
Oui.
Je pense que l'argument ne les touchera pas plus, parce qu'ils vous diront, mais pour qui me prenez-vous ce que je suis en train de faire, vous dites que c'est du plaisir pris à faire souffrir, mais moi je vais le qualifier tout autrement. Ça voudrait dire que vous attendez des adversaires qu'ils reconnaissent qu'ils sont de mauvaises personnes. Oui, il y en a, je pense, qui effectivement peuvent dire j'en ai connu, je suis chasseur, mais j'en suis pas fière. Voilà. Mais je pense que c'est pas une disposition d'esprit qui peut être répandue. Et là, vous amenez, enfin, je crois que vous faites la morale aux gens et que vous êtes encore plus inaudible.
Et surtout que vous oubliez quelqu'un qui est le porte-voix, qui est le juge. Le droit, à quoi sert-il finalement ? Il sert à mobiliser la force publique pour, dans une affaire donnée, faire prévaloir un point de vue. C'est ça le droit. C'est pas rien de mobiliser la force publique. Les clercs, les procureurs, les sergents, les huissiers, comme disait Boileau, les CRS, c'est ça le droit. Il va y avoir quelqu'un qui est un juge qui, à partir de textes, va ou non mobiliser la force publique pour faire triompher dans une affaire donnée tel ou tel point de vue. Ce n'est pas tellement ce que vous appelez nos adversaires qu'il faut convaincre. C'est le juge. Pour l'article 515-14, c'est tout à fait évident. Quoi qu'on ait pu dire de ce à quoi servirait ou ne servirait pas le texte en question, personne ne peut savoir ce qu'il en adviendra. C'est au juge qu'il revient d'interpréter les textes pour les appliquer de manière concrète et effective ou pour les laisser sommeiller. Alors il y a bien sûr ceux qui demandent aux juges, les associations notamment, qui ont un rôle important, mais je crois que c'est là que ça se joue. Vous pouvez ajouter des critères pour donner mauvaise conscience. C'est une manière de changer les choses, je ne la critique pas. C'est une manière de changer les choses, de donner suffisamment mauvaise conscience à certains pour qu'ils arrêtent. Mais le droit, ce n'est pas ça.
Une toute petite question à monsieur Margueno. Vous disiez à propos du droit suisse qu'au fond, il n'y a pas grande différence entre le bien et la chose. Et que quand le droit suisse disait les animaux ne sont pas des choses, c'était au fond une façon de dire ils ne sont pas des biens. Et il me semblait en réalité que, notamment dans les débats relatifs à la promotion du statut des animaux il y a 2 ans et il y a 1 an, qui a débouché sur 515-14, un des arguments de ceux qui défendaient le statu quo, c'était de dire, mais vous savez, si l'animal est un bien, ça le protège parce que c'est une propriété et qu'on ne peut pas attenter à la propriété du voisin, faire ce qu'on veut du chien du voisin, etc., etc. Et il me semblait qu'à ce moment-là, ceux qui défendaient le statu quo n'étaient pas pour la chosification de l'animal, mais pour un droit qui fonctionnait à la propriété et à la somadivision, en effet, des personnes et des biens, c'est-à-dire des propriétés.
Oui, vous avez tout à fait raison, et ça renvoie à la question du statut des animaux sauvages. Alors, si on entrait dans les distinctions, les biens, ce sont les choses qui sont déjà dans le commerce juridique, et les choses qu'on appelle quelquefois les res nullius, ce sont effectivement dans cet état-là. Et il y a un certain nombre de collègues, notamment notre collègue Marie-Pierre Dufresne de Strasbourg, qui travaille depuis longtemps à faire entrer les animaux sauvages dans les extraits de la catégorie des res nullius, pour les faire entrer dans la catégorie des choses communes. Et là, ils auraient comme des entités qui en seraient propriétaires et qui pourraient les défendre. C'est une piste importante. Mais la question n'est pas de protéger les animaux, tous et en particulier les animaux domestiques et apprivoisés, contre les tiers. Il s'agit de les protéger contre leurs propriétaires. Et c'est là que la personnalité juridique, faisant écran entre l'animal qui souffre et celui qu'on appelle son propriétaire, a toute son utilité.
Dernière question.
Bonsoir. Y aurait-il des pistes pour éviter la progression de l'article 515 ?
Y aurait-il des pistes pour éviter l'abrogation de l'article 515-14 ? Vous voulez parler de pistes politiques ? Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. Hein, mais, il y a quand même une première piste, je crois, qui serait que toutes celles et tous ceux qui sont fermement attachés à la promotion de la protection des animaux reconnaissent enfin que ce texte est une avancée historique. Avec Florence, nous avons été plus ou moins impliqués à l'élaboration de cette Florence et Elisabeth de Fontenay et quelques autres. Et en tant que juriste, peut-être un peu plus que quelques autres, ce qui m'a le plus choqué pendant cette période de 2014-2015, ce n'était pas tellement les résistances du monde de l'élevage qui étaient directement concernées, c'était les réticences d'un certain nombre d'agents de la protection animale qui considéraient que c'était un pur gadget, que c'était un leurre pour donner un os à ronger aux défenseurs de la protection animale, pour différer d'au moins 50 ans un véritable texte qui ferait véritablement avancer les choses. Et je crois que ils ont reconnu maintenant que c'était une erreur, cet article 515-14. Je crois que, personnellement, je l'avais dit et écrit, que ça ne pouvait rien changer du jour au lendemain, mais que ça renouvelait le cadre théorique suffisamment en profondeur pour permettre de tout changer petit à petit, question qui fâche par question qui fâche. Aborder la plupart des difficultés qui peuvent surgir en matière de protection animale à partir de cette nouvelle grille de lecture, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, ça permet de rééquilibrer le débat. Parce que vous savez d'où on vient et où on va sans doute retourner. Les questions animalières étaient évacuées par le mépris et le ridicule. Avec ce texte, il y a un choc qui s'est produit dans la société civile, on n'a plus à rire forcément de toutes les questions de protection des animaux. Donc on entre dans la phase de la discussion, argument par argument. Alors si ceux qui participent à la protection des animaux étaient ceux qui criaient le plus fort contre ce texte qui leur donnait des armes, voilà une piste. Que tous les défenseurs sincères de la cause animale conviennent aujourd'hui qu'il s'agit là d'une avancée historique et qu'en tant qu'avancée historique, il faut s'arc-bouter pour empêcher qu'elle passe à la trappe pendant 10 ou 15 ans.
Merci beaucoup. Je pense que de toute façon, il y a de quoi poursuivre. Bravo à tous les deux. Merci Jean-Pierre et merci Florence. On se retrouve dans un quart d'heure précise pour la suite du programme à 16h15. En attendant, vous pouvez éventuellement vous rendre à la librairie Flammarion, qui met à disposition un certain nombre d'ouvrages des intervenants de ce colloque et qui sera aussi présente à la sortie du colloque plus tard dans la journée. Et on se retrouve dans un quart d'heure.